BW. Droits et libertés.
Les États-Unis l'ont annoncé, la RDC et le Rwanda devraient signer le 27 juin prochain un accord de paix à Washington. Ce texte est destiné à mettre enfin fin à un conflit qui dure depuis des décennies maintenant entre ces deux États, des États qui officiellement ne sont pas en guerre. Parmi les dispositions prévues, la reconnaissance mutuelle de l'intégrité territoriale de l'autre pays, l'arrêt des hostilités, mais aussi une intégration soumise à condition des combattants des groupes armés dans l'armée régulière. Roger-Claude Libanga de l'Université Emory d'Atlanta aux États-Unis propose lui un instrument pour s'assurer que l'accord de paix soit bien appliqué. Il est notre invité pour en parler cette semaine. Sandrine Blanchard au micro, bonjour et bienvenue tout le monde. Roger-Claude Libanga, bonjour.
Bonjour Madame Blanchard.
Vous êtes professeur de droit et de négociation internationale avancée à l'Université Emory aux États-Unis. Roger-Claude Libanga, en quoi est-ce que ce projet d'accord entre le Rwanda et la RDC est différent des autres qui avaient été signés par le passé, mais que le Rwanda et la RDC s'accusent mutuellement de ne pas avoir respecté?
Je peux citer par exemple le contexte diplomatique de sa signature. Sous l'égide directe des États-Unis, avec une implication personnelle du président Donald Trump, ce qui ajoute bien entendu une pression diplomatique et une visibilité internationale pouvant encourager les parties à respecter leurs engagements. En outre, ce projet d'accord comprend des clauses précises sur le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, ce qui démontre aussi une volonté de traiter à la fois les symptômes et les causes structurelles de l'instabilité. Le caractère conditionnel de l'intégration est aussi nouveau, indiquant que les critères concrets devront être remplis avant toute réintégration, ce qui renforce bien entendu la crédibilité du processus.
Est-ce que, selon vous, cet accord peut effectivement ramener la paix, étant donné que ce ne sont pas ou pas seulement des armées régulières, celles de la RDC ou du Rwanda, qui s'affrontent sur le terrain, mais qu'il y a aussi, par exemple, la FCM-23, bien sûr, les FDLR, des milices Wazalendo, bref, des groupes armés non étatiques. Est-ce que ces groupes armés-là sont aussi liés par des promesses qui peuvent être faites par les gouvernements ?
Le fait que le projet d'accord fasse mention de l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques est révélateur. Cela implique, de manière indirecte mais significative, une reconnaissance tacite du rôle que jouent ces groupes armés comme supplétifs des parties en conflit. En d'autres termes, cet accord ne concerne pas uniquement les entités étatiques, mais englobe également les groupes armés. Quant à la question de savoir si cet accord sera effectivement respecté, la réponse réside dans la volonté politique des parties signataires, du contrôle ou de l'influence réelle que ces signataires exercent sur les groupes armés, mais surtout dans l'existence de mécanismes rigoureux de suivi, d'évaluation et de vérification de la mise en œuvre de l'accord.
Roger-Claude Libanga, vous proposez donc un instrument pour, dites-vous, évaluer et mesurer la mise en œuvre de l'accord de paix à venir. Pour vous, il est essentiel qu'il y ait un suivi post-conflit pour s'assurer que le processus de paix continue bien au-delà de la signature qui sera médiatisée de ces accords, c'est ça ?
L'histoire des crises en RDC montre que plusieurs accords de paix ont échoué, non pas en raison de leur contenu, mais à cause d'un manque de suivi rigoureux de leur mise en œuvre. Sans un mécanisme de mesure objectif des engagements, chaque partie peut affirmer qu'elle respecte l'accord ou accuser l'autre de l'avoir violé. C'est pourquoi j'ai estimé utile de concevoir un outil de mesure de la mise en œuvre du prochain accord de paix en RDC. Bien entendu, pour combler ce vide en offrant une méthode quantitative, claire et équitable pour évaluer les progrès et garantir la responsabilité des parties signataires.
Si je vous ai bien compris, pour résumer, vous proposez d'évaluer les quatre grands domaines sur lesquels vont porter les engagements pris par la RDC et le Rwanda avec un système de points. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots simples comment marche le codage des variables, c'est-à-dire celui qui va permettre d'attribuer ensuite des notes et donc de suivre les progrès effectués par les deux parties? En gros, il faut définir des tâches claires, un calendrier pour les effectuer, puis après vérifier qu'on s'en tient bien aux engagements, c'est ça?
Justement, l'outil que je propose repose sur une méthodologie de codage qui traduit les engagements qualitatifs d'un accord de paix en des tâches spécifiques mesurables. Chaque tâche est notée sur une échelle de 0 à 10 selon le niveau d'exécution, non entamée, partiellement ou pleinement réalisée. Ces scores sont ensuite convertis en pourcentages, permettant de visualiser l'avancement global et individuel de la mise en œuvre. Cela aide également à identifier les retards, les zones de blocage, ainsi que les progrès réalisés.
Les quatre piliers de l'accord sont la sécurité et la défense, le développement socio-économique, la politique et les institutions, et puis justice et réconciliation. Est-ce que vous pourriez donner un exemple d'une façon de suivre un point bien précis?
Par exemple, si l'accord exigeait le retrait des troupes rwandaises, l'outil proposerait de coder cette exigence en plusieurs tâches. La publication d'un décompte initial des troupes rwandaises sur le sol congolais, le retrait physique observé, la vérification par une entité tierce indépendante, l'absence de réinfiltration. Après la période définie, chaque étape est évaluée indépendamment et cela contribue à un score global. Ainsi, on peut quantifier objectivement le niveau de retrait des troupes rwandaises du sol congolais.
Ce que vous dites aussi, c'est que ce système de points doit permettre à toutes les parties prenantes dans la résolution de la crise en RDC d'utiliser cet outil. Ça veut dire évidemment les belligérants, mais aussi la société civile, l'Union africaine ou encore les médiateurs, les organismes régionaux et internationaux. Est-ce que vous pourriez en dire un mot?
Bien sûr, l'outil peut être utilisé par toutes les parties prenantes dans la crise en RDC. Y compris les médiateurs, les belligérants eux-mêmes, les missions de maintien de paix, etc. Il est adaptable selon le contenu final de l'accord de paix. Il peut être présenté sous forme d'un tableau de bord interactif ou d'un rapport périodique qui informe le public et les décideurs sur l'état d'avancement de l'accord de paix.
Et vous insistez sur le fait que cet instrument que vous proposez est politiquement neutre et transparent. Alors pourquoi est-ce que ces deux points sont particulièrement importants selon vous?
Absolument. L'outil proposé est un instrument politiquement neutre. Il est technique et transparent. Il ne juge pas les intentions politiques, mais se concentre sur les faits mesurables. Il peut être utilisé par toutes les parties impliquées, telles que je l'avais dit, y compris les médiateurs, pour garantir que personne ne manipule les résultats du processus de mise en œuvre à des fins de propagande ou de diversion.
Cet outil que vous proposez s'inspire d'expériences qui ont été menées dans d'autres pays africains en conflit et qui inspire cet instrument que vous proposez pour l'accord RDC-Rwanda.
Justement, l'outil s'inspire d'un instrument similaire que j'ai précédemment développé pour soupeser l'implémentation des accords de paix dans d'autres pays africains, notamment au Mali et au Soudan du Sud. L'outil n'a pas encore été officiellement partagé avec les parties prenantes de l'accord en RDC. Toutefois, je suis entièrement disposé à le présenter et à en discuter. Mon objectif en concevant cet outil est de contribuer de manière technique et indépendante à la réussite du processus de paix, en fournissant un cadre méthodologique clair, neutre et objectif pour le suivi de l'accord. Bien entendu, je serai honoré à le mettre en disposition et de collaborer avec les parties intéressées.
Roger-Claude Liwanga, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Madame Blanchard, pour cette interview.
C'est la fin de ce magazine. Merci encore à Roger-Claude Liwanga, professeur de droit et de négociation internationale avancée à l'université Emory aux États-Unis. Si vous souhaitez réécouter ou podcaster Droits et Libertés, allez sur la plateforme de podcast de votre choix ou notre site internet tw.com/français. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.
Clash, Yoka Misapi Ambokalia, Papa na Eric, Burkina Faso. Salani Moussala Maloboy.